À la une des quatre colonnes, la chronique qui décrypte l'actu sur Radio Immo.
À la une des quatre colonnes cette semaine, la taxe d'habitation. Pourquoi l'idée d'un nouvel impôt local fait débat ? Après le débat sur la fin de l'abattement de 10% sur les retraites, en voici un autre. Le ministre de l'Aménagement, du Territoire et de la Décentralisation, François Rebsamen, a lancé dimanche un nouveau ballon d'essai fiscal, au risque de brouiller complètement son message et d'inquiéter les contribuables. C'est un nouveau pavé dans la mare, dimanche, en évoquant dans Ouest France une contribution modeste, soit une taxe de 30 euros par an pour chaque foyer fiscal, pour financer les collectivités locales. La proposition a toute fait suite. Réagir l'Élysée à la sortie du Conseil des ministres ce lundi. Et il n'y a aucune mesure d'impôt nouveau en préparation, parce que je pense que ce n'est pas la marche à suivre, a confirmé le Premier ministre François Bayrou face aux députés ce mardi, quelques minutes après que le député macroniste du Gers, Jean-René Cazeneuve, s'insurge. Quelle hypocrisie de voir tant de pourfendeurs alors que personne n'a déposé d'amendement pour la créer. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, a alors renchéri « Nous ne créerons pas de nouvel impôt local, nous ne créerons pas de nouvel impôt tout court. Fermez le banc !» Au moment où le président du Sénat formule à la radio la faute originelle, c'est la suppression de la taxe d'habitation. L'incollable sénatrice LR des Hauts-de-Seine de Boulogne sur le sujet des finances locales, Christine Lavarde, qui a fait son entrée à 32 ans en octobre 2017 dans l'hémicycle du Palais du Luxembourg, nous partage son analyse dans la salle des conférences. Pour l'anecdote, elle avait posé sa première question dans l'hémicycle sur la taxe d'habitation.
Ce sujet n'est pas nouveau. Finalement, depuis la suppression de cette taxe en 2017, le sujet de la taxe d'habitation a toujours suscité des débats. Déjà parce que sa suppression en fait a été un peu particulière avec un processus en trois temps. L'argument qui avait été exposé pour la supprimer était son côté un peu absurde, puisqu'elle repose sur des valeurs locatives qui sont complètement décorrélées de la valeur économique des biens. Mais cette mesure économique, on a continué à la conserver pour la taxe foncière, qui, elle, ne s'applique qu'à une partie de la population. Donc finalement, la raison qui a donné lieu à la suppression de la taxe d'habitation devrait logiquement aujourd'hui donner lieu à la suppression de la taxe foncière.
Au moment où le gouvernement est en quête de 40 milliards d'euros pour boucler le budget 2026, le débat sur le retour de la taxe d'habitation supprimée depuis fin 2022 pour les résidences principales et toujours effective pour les résidences secondaires est alors relancé. C'est un marqueur important du premier quinquennat Macron. Au total, ce sont 19 milliards d'euros rendus aux ménages, soit 730 euros en moyenne par foyer selon les chiffres de Bercy et rapporté un gain notable de pouvoir d'achat ciblé sur les classes moyennes résidant dans des communes souvent peu prospères. Le manque à gagner pour les collectivités a lui été compensé à l'euro près selon les gouvernements successifs, avec notamment un mécanisme savant incluant le transfert de la part départementale de taxe foncière pour les communes et celui d'une fraction de la TVA pour les intercommunalités. Mais les nombreux propriétaires qui ont vu bondir leur taxe foncière ont de quoi estimer que le lien fiscal est déjà suffisamment fort. Comment croire que ce nouvel impôt promis par Rebsamen, fixé bas initialement, n'augmenterait pas ensuite au fil du temps ? Pour l'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'UNPI en tête, on ne peut pas faire la charge aux seuls propriétaires.
Je constate qu'aujourd'hui, les propriétaires sont les derniers contributeurs locaux, que factuellement, on a eu une augmentation très forte de la taxe foncière dans un certain nombre de communes pour justement venir contrebalancer la suppression de la taxe d'habitation, puisque désormais, le pouvoir de taux des maires est réduit sur une assiette beaucoup plus faible, puisque la taxe d'habitation, elle est compensée, mais elle est compensée à la hauteur de ce qui était en 2017. Et par ailleurs, les propriétaires fonciers, et notamment ceux qui sont propriétaires bailleurs, donc qui jouent un vrai rôle dans l'accès au logement, sont surfiscalisés. Enfin, aujourd'hui, l'actif immobilier est l'actif le plus fiscalisé. Est-ce que c'est pas aussi un peu la cause de ces tensions très fortes qu'on observe sur le marché du logement ?
Quelle serait alors la meilleure solution pour la sénatrice, qui reste convaincue qu'il faut revoir complètement la fiscalité, pas maintenant, mais plutôt dès l'année prochaine, en vue des élections présidentielles.
Moi, je ne suis pas opposée au retour d'un impôt local à assiette large. Mais je n'ai pas dit forcément une surimposition de l'impôt sur l'impôt. C'est-à-dire que dans mon esprit, il doit y avoir une réflexion beaucoup plus globale sur la refonte de la fiscalité pesant sur les particuliers et qui pourrait dans ce cadre intégrer une part d'impôts locaux.
Une conférence des territoires doit se tenir le 6 mai prochain afin d'envisager quelle pourrait être la contribution des collectivités au redressement des comptes publics, sachant que l'échelon local représente 1/5 des dépenses publiques. Mais une chose est sûre, il faudra attendre le 14 juillet pour connaître les arbitrages du projet de loi de finances 2026. On confirmait ce mardi à l'Assemblée nationale le Premier ministre François Bayrou et le ministre de l'économie Éric Lombard.
On a tout essayé ces dernières années, la contractualisation, la coercition, les ponctions obligatoires. Finalement, pour des résultats qui sont ce qu'ils sont, et notamment, il faut quand même pas qu'on oublie qu'aujourd'hui, le premier investisseur public reste les collectivités.
Selon Emmanuel Salaberry, maire de Talence, en Gironde, une ville de 45 000 habitants, et coprésident de la commission des finances de l'Association des maires de France, voici sa réaction.
C'est la raison pour laquelle l'AMF sera force de proposition, mais rappellera qu'elle n'a pas demandé la suppression de la taxe d'habitation, première chose. Elle ne donc demande pas le retour de la taxe d'habitation, mais elle dit simplement qu'il faut qu'on arrive à simplifier les choses, parce que moi je me mets à la place aujourd'hui des propriétaires, des gens qui ont envie d'investir. Ça crée beaucoup d'incertitudes et donc beaucoup de. On est en train de faire ralentir le système avec des vraies conséquences économiques à terme. La taxe d'habitation, ça représentait environ 25% des ressources de la collectivité, donc 1 euro sur 4 collectés, c'était énorme. Et donc aujourd'hui, on est passé aux alentours de 20%, parce qu'en fait, sous l'effet de l'inflation et de l'augmentation du nombre d'habitants, eh bien, ce que me donne l'État ne correspond plus à ce que je touchais il y a 8 ans. Donc en fait, voilà. Et par ailleurs, moi, la crainte que l'on a, c'est qu'aujourd'hui, 85% des maires n'ont pas touché les taux de fiscalité locale pendant ce mandat. Donc l'extrême majorité des personnes, les maires n'ont pas augmenté les taux de fiscalité. Mais après 2026, si l'État vient encore nous faire les poches dans le cadre de ce budget, si on vient encore avoir des décisions du type augmentation du point d'impôt, du point d'indice ou d'autres choses, ben quelle solution s'offrira aux maires? Uniquement, encore une fois, d'avoir le recours au levier fiscal. Et donc on viendra encore une fois pénaliser un habitant sur deux, uniquement les propriétaires.
Aborder ce rendez-vous le 6 mai avec l'annonce d'un nouvel impôt serait une grave erreur. Il s'agit de freiner la hausse continue des dépenses locales, pas l'inverse. L'Association des maires de France prévient d'ores et déjà.
Ça sera une ligne rouge de l'AMF. On ne négociera pas un quelconque retour d'un impôt local s'il n'y a pas une baisse. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on a fait des propositions. On peut imaginer demain, si on ouvre le débat, avoir un impôt local qu'on pourrait défalquer de l'impôt sur le revenu. Ce qui voudrait dire en fait qu'au lieu de donner de l'argent à l'État, eh bien on donnerait directement à la collectivité locale. Et donc on aurait à la fois un système lisible, un système juste. Il faut redonner la liberté aux maires. Il va falloir nous expliquer comment on va nous redemander des efforts. Encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, on a fait 70 milliards d'euros d'économies. Aujourd'hui, les collectivités locales en France coûtent deux fois moins cher que ce qu'elles coûtent en Europe. On a un système particulièrement vertueux. Si on n'augmente pas les impôts et si on ne vient pas prélever les collectivités territoriales, il va falloir faire vraiment les réformes qui vont fâcher. Mais je pense que le temps est venu de ça. Mais en tout cas, ça ne peut pas être les collectivités qui soient toujours le dindon de la farce et qui contribuent toujours à la réduction du déficit de l'État.
À la une des quatre colonnes, la chronique qui décrypte l'actu sur Radio Immo.